marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse.
Que faire du 21 janvier 1793 ?
C'est là ce monument-là, c'est la chapelle expiatoire, et que c'est tout le passé, non seulement de la royauté française, mais de la Révolution française. Car les révolutions, cette bizarrerie, c'est qu'on coupe la tête à des gens, et ceux à qui on l'a coupé, on la leur coupe ensuite.
Guy Descartes. Une question, le roi est guillotiné. Oui, mais après, c'est le peuple qui est maintenant le souverain. Comment le tenir un ? Une question d'aujourd'hui. La concurrence entre citoyens égaux entraîne nécessairement l'émergence de leaders. Ils vont chacun, et tour à tour, mobiliser l'adhésion et acquérir une popularité autour d'une valeur pendant un moment donné. L'homme de la patrie en danger, le tribun du peuple, l'enragé, l'incorruptible, etc. Mais leur popularité les sépare paradoxalement du peuple. S'émancipant de lui, ils sont jugés trop indépendants, dépopularisés et guillotinés. Ainsi, au cimetière de la Madeleine, là où est édifiée maintenant la chapelle expiatoire, on entendait un voisin, Guy Descartes, je l'ai dit, sont jetés, non loin du couple royal, Barnave et Hébert, Madame Roland, voire Olympe de Gouges. On croira trouver le ressort de l'unité avec Bonaparte. L'empereur transforme d'un même mouvement la tradition monarchique. Il n'incarne plus face au peuple une figure sacrée et l'essai révolutionnaire. Il s'incorpore le peuple. Il est le peuple. Il peut donc se sacrer lui-même. Mais l'Empire n'est pas appelé à durer. Par deux fois, il tombe, en 1814 et en 1815. Les Bourbons remontent sur le trône par un concours de circonstances qui aurait aussi bien pu ne pas se produire. Et c'est un bien grand embarras. Que faire du peuple qui est advenu et de la mémoire des rois, qui est revenue. Est-il opportun maintenant de rappeler qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, observait que la mort du roi est un nœud de l'histoire française? En tout cas, le 21 janvier en est un révélateur. La Restauration ne réussit pas à en faire un jour férié partagé par les uns et par les autres dans un esprit de réparation. La place de la Révolution a beau se nommer maintenant place de la Concorde, le 21 janvier vit souvent s'y succéder un groupe qui en appelait à l'expiation et un autre qui consommait avec délectation de la tête de veau. La mémoire française est une entreprise hasardeuse.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Emmanuel Furex, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Grand spécialiste des entrepreneurs de mémoire, enfin du deuil politique. On vous doit notamment, il y a 10 ans déjà, un très beau livre chez Jean Vallon qui s'appelle « La France des larmes, les deuils politiques ». À l'époque romantique. Oui, le mot entrepreneur de mémoire, Louis XVIII, qui monte sur le trône en 14, puis de nouveau en 15, 1814-1815. Il est dans la nécessité, dans l'obligation psychologique, politique, de s'occuper des morts de la Révolution. On comprend ça assez bien aujourd'hui.
De s'occuper des morts une génération après la Terreur et de choisir à l'intérieur de ces morts ceux qu'il juge dignes d'être célébrés. Alors, évidemment, d'autres entrepreneurs de mémoire souhaiteraient voir l'ensemble des victimes de la Révolution commémorées et leur mort expiée, voire vengée. Quant à lui, il a une conception un peu plus prudente du deuil. Il souhaite resserrer ce deuil et cette commémoration autour de la famille royale, ce qui lui permet aussi, par la même occasion, de resacraliser la monarchie autour de la figure du roi martyr, Louis XVI.
Avant qu'il ne revienne, des gens pieux, enfin, au sens positif du mot, avaient racheté les charniers de la Révolution française. Combien y en avait-il à proximité des endroits où on guillotinait ?
Alors oui, là c'est une géographie funéraire qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui, qui est celle du Paris blanc, funéraire donc de la Révolution, et qui est liée à la géographie de la guillotine. Donc lorsque la guillotine s'est trouvée place de la Révolution, place de la Concorde actuelle, les corps ont été rassemblés dans un ancien cimetière qui s'appelait le cimetière de la Madeleine, à l'emplacement précisément de l'actuelle chapelle expiatoire. D'autres cimetières charniers, des fosses communes en réalité, ont été aménagés, notamment donc aux Érancy qui se trouvait sur la plaine Monceau, et dont la toute trace a disparu à l'occasion des travaux haussmanniens, donc après Thermidor, et puis c'est-à-dire que les victimes de la guillotine post-Thermidor ont été inhumées là, et puis un troisième qui se trouve à Picpus, qui dont la mémoire, elle, a été conservée lorsque la guillotine se trouvait place du trône renversé, c'est-à-dire place de la nation actuelle.
Alors des familles vont racheter le lieu Picpus, qui avait été un couvent de chanoines de Saint-Augustin, qui avait été loué comme bien national. Il y avait là une maison de santé où on dissimulait des suspects. Et puis, au fond du jardin, parce que l'espace était très grand, on avait ouvert le charnier, qui empestait d'ailleurs les pensionnaires de la maison de santé. Et au tout début du 19e siècle, une société regroupant les familles nobles dont des représentants étaient dans ces charniers a racheté l'endroit.
Dans les copropriétaires, à 99,5% sont que des gens des 200 familles du vieil armorial de France, hein, c'est-à-dire la noblesse française, qui ont acheté ce lieu par souscription en 1802 et qui sont depuis 1802 les copropriétaires par part, et qui ont dans le cimetière des concessions à perpétuité, par conséquent, qui inhument toujours les membres de leur famille qu'ils désirent. Voilà.
Ouais. Nuit magnétique consacrée aux aristocrates, à laquelle on fera souvent recours, c'était en 1985. Oui, mais il n'y avait pas que des nobles parmi les gens qui étaient là dans le charnier, même si le cimetière maintenant est organisé par la noblesse.
Oui, c'est là qu'on retrouve l'intérêt de ce concept d'entrepreneur de mémoire, c'est-à-dire que la fosse commune de Picpus comptait 1306 victimes de 1794, et une majorité de ces victimes étaient des roturiers. Mais ceux qui captent la mémoire et qui la transmettent de génération en génération sont effectivement des nobles, et parmi les familles les plus éminentes, les Rohan-Chabot, les La Rochefoucauld, les Noailles, etc.
Lafayette aussi est enterré là. Oui. Vous parlez de royalisme sentimental, c'est-à-dire qu'un pèlerinage s'organise très tôt dans les premières années du 19e siècle. Et quand je dis pèlerinage, il faut voir qu'il y a à Picpus, elles sont toujours là, des religieuses qui pratiquaient l'adoration perpétuelle. C'est-à-dire que la prière était constamment dite pour les victimes, peut-être aussi pour les bourreaux.
Alors le deuil était alors relativement clandestin, hein, sous l'Empire, et assez mal perçu des autorités. Donc c'est une mémoire privée qui s'organise là, avec des pèlerinages, aussi bien d'ailleurs à Picpus que au cimetière de la Madeleine, et même au cimetière des Érancy dont on parlait tout à l'heure, qui ont tous les deux été rachetés par des voisins de sensibilité royaliste. Et en 1814, par exemple, au cimetière de la Madeleine, des visites régulières sont organisées, un plan du cimetière est même publié par le propriétaire des lieux qui s'appelait Descloseaux.
Alors Descloseaux va donner le cimetière à Louis XVIII. Louis XVIII qui, très tôt, dès le 14 mai 1814, enfin dès qu'il revient sur le trône, organise les premières cérémonies à la mémoire de son frère, Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Louis XVII, dont il est le successeur, et de Madame Élisabeth, la fille. Seulement eux, seulement les membres de la famille royale. Le souci va donc être de trouver au cimetière de la Madeleine les deux corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Alors, Chateaubriand, qui joue un rôle important à cette époque, est un expert. C'est déjà un médecin légiste. Lui, il va voir le crâne supposé de Marie-Antoinette. Il va dire, je vois sur cette tête de mort le sourire qui m'était adressée quand elle m'avait reçu à Versailles. Mais enfin, c'est pas facile quand même, sauf quand on est Chateaubriand, d'identifier les deux corps.
Oui, c'est là qu'on retrouve cette sensibilité nécrophile romantique qu'exprime très bien Chateaubriand. Il aurait eu encore plus de mal, je crois, à discerner un sourire sur le crâne de Louis XVI, car les ossements de Louis XVI, à lire le procès-verbal d'exhumation, étaient réduits à l'état de stricte poussière.
21 janvier 1815, le roi Louis XVIII n'assistera pas à la cérémonie, reclus peut-être dans son deuil, on ne savait pas si proche de son frère. Les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette sont transportés par un grand char funèbre qui passe porte Saint-Denis et rejoint ensuite la basilique. Alors vous décrivez dans La France des larmes la cérémonie, il y a des canons, des coups de canon, il y a des coups de tambour, la trompette, tout ça voilé de noir.
Oui, le char funèbre qui était gigantesque et accompagné par la maison militaire du roi. Et il s'agit en fait, à travers ce transfert, de renouer avec la continuité dynastique et ce haut lieu de la continuité du sang royal qu'est la basilique de Saint-Denis, avec également une volonté de restaurer les fêtes funèbres de la monarchie et même de leur donner plus d'éclat, car elles avaient lieu nuitamment, de nuit, à la fin de l'Ancien Régime. Mais là, elles ont lieu deux jours. Il s'agit de, refonder la monarchie dans le domaine de la mort.
Retour à la crypte qui avait été profanée en 1793.
Nous sommes dans la basilique Saint-Denis, la basilique royale. La messe est terminée. Nous avons entendu le discours du prêtre qui relit le testament de Louis XVI. Dans ce testament de Louis XVI.
Et là, nous descendons dans la crypte.
Dans la crypte des rois de France, qui date de l'époque de Charlemagne.
Ici, il y a de nombreux tombeaux de rois de France.
Oui.
Des tombeaux de quel roi?
Et tous les rois de France sont enterrés ici. C'est une tradition. Nous sommes dans les racines mêmes de la France.
Ô Christ, roi des rois et chef suprême des nations, souvenez-vous du Saint Royaume de France, nouvel Israël élu pour vous, pour l'exécution du plan divin. Souvenez-vous, ô roi de gloire, de l'alliance que vous avez scellée avec lui au baptême de Clovis et que vous avez renouvelée à chacun des sacres des rois très chrétiens. Ainsi soit-il.
Il y a quelques mots-clés, on entendait celui d'adoration tout à l'heure, à propos du cimetière de Picpus. Il y a aussi réparation. Emmanuel Furex. Et il y a aussi expiation.
Oui, l'expiation, sans doute un des maîtres mots de ce régime de la restauration, mais il y a différentes manières de l'entendre. Expier, ça peut être simplement réparer un outrage. Et le transfert des ossements de Louis XVI et de Marie-Antoinette à Saint-Denis relève de cette catégorie-là. Mais dans l'expiation, il y a aussi l'idée de faire pénitence, de reconnaître ses fautes, et là se pose la question de la culpabilité collective de la nation française. Et certains entrepreneurs de mémoire dont on parlait tout à l'heure, et en particulier les ultra-royalistes, cherchent à assument pleinement cette dimension un peu vengeresse de l'expiation.
Alors il y a tout un programme expiatoire dans beaucoup d'endroits en France, et dans le quartier de la Madeleine, la place de la Révolution, où était la guillotine, l'église de la Madeleine, qui est conçue pour ça essentiellement, pendant la Restauration.
Alors, c'est une autre dimension de la géographie funéraire dont on parlait, c'est de ce quartier de l'expiation qui émerge dans les cartons et puis aussi en partie dans les faits lors de ce régime de la Restauration, donc sur les lieux d'inhumation temporaire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, donc au cimetière de la Madeleine où va être érigée une chapelle expiatoire. Effectivement, dans l'église de la Madeleine, qui a été désignée comme lieu principal de l'expiation et où un programme de peinture et de sculpture était destiné à mettre en scène ces martyrs royaux, mais aussi l'idée de péché national de la France. Et puis, la place de la Concorde actuelle, place de la Révolution devenue place Louis XV sous la Restauration, puis place Louis XVI sous le règne de Charles X, qui n'hésite pas à en faire un lieu central de l'expiation en projetant un monument à l'effigie de Louis XVI qui rappelle le martyr de son propre frère.
Alors de tout ce programme va rester essentiellement et presque seulement la chapelle expiatoire dont nous allons parler maintenant, qui est un lieu moderne dont le nouvel administrateur monsieur Peniget de Stutz veut y multiplier les conférences, les locations, enfin pas à n'importe quel prix et pas à n'importe qui, et les concerts. Alors il faut un moment d'amour dans cette émission, la chanteuse Alla Nie, qui s'est produite à la chapelle expiatoire, mais tout aussi bien, par deux fois, à France Inter.
We agreed to part in harmony, but I think I may live to regret being cooperative, though I can see no moon, darkness at noon. I gave my love and I rose like the rising sun, and now I feel nothing, for without you there's no love. Oh, my heart shines bright for you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Que faire du 21 janvier 1793 avec Emmanuel Furex, l'auteur, il y a 10 ans déjà, de La France des larmes aux éditions Chamballon, son éditeur habituel. Le roi Louis XVIII, le grand entrepreneur de mémoire, habile, jusque dans son imprécision, décide de financer sur sa liste civile les travaux de la chapelle expiatoire à l'emplacement de l'ancien cimetière de la Madeleine, qu'il confie, alors ça c'est drôle, à un architecte qui est une vraie girouette en fait, malgré ses grands principes théoriques classiques, parce qu'il va durer dans le métier jusqu'au Second Empire.
Effectivement, il s'agit de Fontaine, qui est proche de David, qui a été le premier architecte de l'empereur, et auquel on confie cette tâche qui lui est un petit peu étrangère au départ, de d'ériger une chapelle expiatoire à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Alors c'est un monument à la fois important et invisible aux yeux des Parisiens, alors qu'il est à proximité de la gare Saint-Lazare ou des grands magasins. Il y a un jardin surélevé qu'on appelle Campo Santo, une chapelle haute, une chapelle basse. On y remarque deux grandes statues qui étaient d'abord destinées à la Madeleine et qu'on a finalement mises dans cet endroit plus discret qu'est la chapelle expiatoire, Louis XVI lui-même et Marie-Antoinette.
Absolument, une statue de Louis XVI soutenue par un ange et qui semble mettre en image les paroles du confesseur de Louis XVI, fils de Saint Louis monté au ciel, donc mise en image du roi martyr à nouveau, et puis une statue de Marie-Antoinette d'autre part soutenue dans les bras de la religion.
Alors, une grande inscription posait beaucoup de problèmes, parce que qui désignait sur cette grande inscription, et puis dans le Campo Santo, les cénotaphes qui étaient installés, ils semblaient être des marqueurs, marquer des noms pour les visiteurs. Les noms de qui? Parce que revient toujours la question de la masse des gens qui ont été versés dans le cimetière de la Madeleine au moment des exécutions. Tenez, Guy Descartes, qu'on n'a pas entendu depuis un moment.
Et c'est la tombe de tas de guillotinés qui ont été Louis XVI et Marie-Antoinette. Il y a des grands savants, comme des poètes, comme André Chénier, des beautés comme la princesse de Lamballe, des demi-mondaines de l'époque comme Madame du Barry, qui a dit encore 3 minutes Monsieur le Bourreau. Tout ça, c'est là-dedans. Tout ça, c'est dans cette fosse, il y a 2000 morts. plus les gardes suisses qui gardaient les Tuileries et qui ont été enterrés là.
Il y a au bas mot 2000 corps, dont les ossements en plus ont été en partie corrodés par la chaux, ont été remués, donc savoir qui est qui serait une entreprise assez vaine et n'apporterait pas grand-chose. Après, sans vouloir divulguer nos projets, les technologies actuelles permettrait, sans dénaturer le monument, au moins de mettre une liste, pour autant qu'elle soit possible à arrêter, une liste de condamnés inhumés dans ce cimetière à la disposition du public. Oui.
C'est une vraie chambre d'écho, on entend le son de la voix démultipliée de l'administrateur de la chapelle expiatoire qui, avec le fameux docteur Charlier, a lancé une opération il y a quelque temps qui consiste à glisser dans le mortier interstitiel entre les pierres de la crypte des micro-caméras comme on en utilise dans le monde de la médecine. Et là, on l'a vu.
Des ossements, un véritable ossuaire où ont
et puis
été
aussi
rassemblés.
Des coffres, semble-t-il, dans lesquels sont une partie des ossements.
C'est-à-dire sous la chapelle principale, quatre caveaux. Que décrit d'ailleurs très bien dans son journal l'architecte Fontaine, ont été constitués pour rassembler ces ossements en réalité indistincts et bien évidemment anonymes. Donc on retrouve cette dimension de ces charniers de la Révolution, d'indistinction, de mélange d'ennemis politiques, c'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'au cimetière de la Madeleine se trouvait le corps de Louis XVI, mais aussi celui de son cousin, Philippe Égalité, qui avait voté la mort du roi en 1780.
Alors que faire avec ce qui est indémêlable? Il avait raison de vouloir singulariser seulement le destin du roi et de la reine, Louis XVIII.
Pas nécessairement. Regardez,
on a découvert il n'y a pas longtemps un charnier au Mans où il y a des morts soldats républicains qui voulaient chasser de la ville les Vendéens de l'armée catholique et royale qui étaient parvenus jusqu'au Mans. Oui, comment démêler?
On aurait pu imaginer un lieu de mémoire plus consensuel, dédié à l'ensemble des victimes. Il a fait un choix différent, qui était d'identifier les deux victimes royales, et sans les oublier tout à fait, en tout cas, ne pas nommer explicitement les victimes ordinaires, alors même que Fontaine avait proposé de le faire.
Oui, mais c'était un scandale pour Louis XVIII d'imaginer de valoriser la mémoire des guillotineurs, même s'ils avaient été guillotinés.
Évidemment, priorité à l'expiation, priorité à la famille royale.
Ouais. C'est intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui, 21 janvier, un peu partout, dans différents lieux traditionnels ou légitimistes de France, et particulièrement à la chapelle expiatoire. Voici d'abord, avant qu'on entende le témoignage de visiteurs d'aujourd'hui, celui un peu plus ancien de l'abbé Charleroux. Alors l'abbé Charleroux, c'est pas n'importe qui, Emmanuel Furex. D'abord, c'est le frère d'Edmond.
Oui, et par ailleurs, c'est un promoteur de la béatification de Louis XVI. Béatification de Louis XVI, qui est une vieille cause portée par les nostalgiques de la légitimité, et qui a échoué une première fois en 1820 sous la Restauration.
Car à cœur vaillant, rien n'est possible.
Sauf qu'une des conditions pour reconnaître le martyr en haine de la foi, c'est que la condamnation à mort de Louis XVI eût été en raison de motifs religieux. Or, c'est pour des causes politiques
C'est pas du tout ce que dit l'abbé Charleroux.
Le roi Louis XVI a été incontestablement un roi martyr, puisque lui et la reine sont morts par obéissance au pape. Ne serait-ce qu'à cet égard, il a été un roi martyr. Par ailleurs, on sait très bien que si les révolutionnaires ont voulu le tuer, c'est parce qu'il était l'incarnation du christianisme et que la révolution était à deux égards. Les deux buts essentiels de la révolution étaient de se débarrasser et de la foi et du roi.
Je vois pas très bien pourquoi on mêle toujours tout ce qui est catholique avec le roi, mais je pense que ça, à l'époque, c'était un peu comme ça.
Et ce nom de chapelle expiatoire, qu'est-ce que ça vous inspire?
Oh ben, je pense qu'il a expié ses péchés, le pauvre Louis XVI. Mais bon, il avait quand même une tâche difficile, on va dire.
Vous êtes parisien?
Non, je suis pas parisien, je suis provincial. Voilà, j'ai quelques jours ici à Paris et donc je profitais de ce séjour pour venir sur ce lieu. J'aurais été incapable de dire le lieu d'exécution de Louis XVI. Bon, ben voilà. Ben,
mais vous trouvez pas que c'est étonnant quand même une chapelle expiatoire?
C'est peut-être une manière de dire, voilà, que le roi, il a eu aussi un rôle à tenir, voilà, et puis que c'était des époques difficiles, troubles. Et finalement, c'est aussi la réconciliation. Si on pouvait aussi arriver à les vivre aujourd'hui, ça serait pas si mal que ça, hein. Plutôt que de se dire, lui a fait ceci, lui a fait cela, voilà, moi je trouve que c'est intéressant, quoi.
Visiteur qui parle au micro de Franck Olivard de pardon et de réconciliation, d'autres notions que celles du vocabulaire de l'abbé Charleroux, du moins en la circonstance.
Oui, pardon et réconciliation peut-être aujourd'hui possible, plus difficile au XIXe siècle où ce mot d'expiatoire accolé à la chapelle lui a porté en quelque sorte malheur d'ailleurs sous la Commune.
On en parlera tout à l'heure des malheurs de la chapelle expiatoire.
D'accord.
Mais je voudrais que vous nous racontiez ce que vous savez des visiteurs d'aujourd'hui, parce qu'il vous arrive de rôder du côté des livres d'or.
De rôder en anthropologue et de constater que ces livres d'or pourraient faire l'objet d'une étude, à mon avis, passionnante. Sur la mémoire de la Révolution. Et j'avais pu constater il y a quelques années quelques-unes de ces notations de visiteurs qui pourront intéresser nos auditeurs. Les rois de France, je cite Marcel de Belgique, les rois de France ont donné de beaux monuments à la France et les révolutionnaires ont tout détruit. Pauvre royauté. Et lui répond un autre visiteur, vive la liberté, vive la Révolution, vive Robespierre, honte aux pèlerins de la monarchie.
Dites-moi, avant de parler du sort de la chapelle expiatoire et de l'iconoclasme dont elle a failli être victime, le 21 janvier est déclaré, après l'épisode des 100 jours qui a créé la panique chez les partisans de la monarchie, fête fériée, et une loi en décembre 1815 l'établit comme telle. Mais jamais le 21 janvier, même à l'époque de la Restauration, ne va s'établir généralement.
En tout cas, il ne fait pas l'unanimité, mais en tout cas, une première loi mémorielle, parce qu'elle qualifie juridiquement la mort de Louis XVI de crime. Une première loi mémorielle définit donc le 21 janvier comme un deuil perpétuel et général, on ne dit pas national parce que ça sonne trop révolutionnaire. Et cette loi sera abrogée après la Révolution de 1830, hein, en 1833. Mais dès la Restauration, effectivement, les libéraux refusent de s'associer à ce deuil qu'ils estiment vengeur.
La chapelle expiatoire, elle réchappe à tous les épisodes d'iconoclasme du XIXe siècle. Vous allez bientôt sortir un livre sur l'iconoclasme au XIXe siècle aux éditions Champvallon, comme d'habitude. Quand la monarchie Bourbon tombe et qu'elle est remplacée par la dynastie des Orléans, le chapelain de la chapelle expiatoire, par précaution, en 1831, va effacer les fleurs de lys.
Absolument.
De lui-même.
Il n'aura pas pu empêcher, en revanche, la destruction d'un moulage d'une statue de Louis XVI lors de la Révolution de 1830, mais effectivement, par ce geste d'effacement des fleurs du lys, il préserve le lieu lors d'une crise iconoclaste un peu oubliée qui s'est déroulée entre 1830 et 1831.
Alors, grande crise d'iconoclasme 1870-1871. Bon, mais ce sont les symboles du Second Empire qui vont être détruits essentiellement en 1870, mais la Commune s'intéresse de près comme une figure incontestable de la réaction à la chapelle expiatoire qu'elle veut démolir.
Absolument, elle prend cette décision tardivement, hein, au mois de mai 1871, en considérant que la chapelle expiatoire est une véritable insulte à la Révolution et qu'en tant que telle, elle doit être démantelée de la même manière que la colonne Vendôme doit être abattue comme symbole de l'impérialisme et que la maison d'Adolphe Thiers doit être démolie.
Alors ça, la maison d'Adolphe Thiers, place Saint-Georges, sera démolie.
Voilà, en revanche.
Mais la politique de la Commune est un peu incohérente dans ce en application, faute de temps peut-être.
Incohérente, on est dans un contexte de guerre civile qu'il faut rappeler, et dans la dernière semaine de mai, dans un contexte de reconquête de la ville par les Versaillais. Donc cette démolition annoncée de la chapelle expiatoire n'aura pas lieu.
Mais l'Arc de Triomphe est préservé, lui, par la Commune.
Absolument, oui, oui.
Et à un moment ou à un autre, qu'il faudrait identifier, il y a quand même des républicains qui ont réussi à graver discrètement, c'est quasi illisible, sur la façade de la chapelle expiatoire, le triptyque, liberté,
égalité, fraternité. On discerne difficilement. Mais...
Merci à vous, Emmanuel Furet. La France des larmes, reportage préparation, c'était Franck
Olivar, Nasser Moussaoui à la technique, Valérie Aestaraï à la réalisation. Et chez vous, Mathieu Bidard.
Liberté, égalité, fraternité et microbes, Jean, dans un instant. On va parler du peuple des intraterrestres. Ce sont les micro-organismes qui vivent dans les entrailles de la planète.
Dans la tête au carré, ce sera dans peu de minutes.